Troisième épisode sur l'art thérapie. Et cette fois-ci, nous y sommes presque. Nous sommes dans le Loiret. Nous allons écouter Philippe Sardot. Philippe Sardot, qui est art thérapeute libéral, qui est enseignant à l'AFRA TAPEM, et qui est surtout superviseur du projet Trénou. Philippe Sardot, bonjour. Philippe Sardot, vous êtes art-thérapeute libéral, vous êtes enseignant à l'AFRA TAPEM et vous êtes également superviseur du projet à Trénou. Alors justement, une question qui semble un petit peu banale, mais quand même, pourquoi et comment ce projet au Collège de la Forêt à Trénou?
Alors, pourquoi et comment? D'abord parce qu'il est porté par une art-thérapeute qui, depuis sa formation, est engagée dans l'enseignement à l'éducation nationale, puisque son métier est d'être institutrice, en fait, professeur, oui, des écoles. Oui. Et donc, elle s'est engagée dans les études d'art-thérapie à l'école de Tours. À partir de là, elle a voulu faire le lien avec entre son travail, ce qu'elle connaissait dans son travail, et l'art-thérapie, trouvant qu'il y avait des liens, en tout cas, à mettre en œuvre et à mettre en valeur, à la fois pour l'art-thérapie et à la fois pour l'éducation nationale. Donc c'est comme ça que le projet est né et il est porté par Karen Toutain qui, depuis 3 ans, porte ce projet étape par étape.
Comment vous êtes intervenu dans ce projet pour soutenir ce projet justement?
Alors l'idée du projet, c'est qu'il y a eu plusieurs niveaux d'évaluation du projet. Dans un premier temps, Karen Toutain a fait une proposition de projet. Ensuite, elle a fait un essai de ce projet-là au sein de son collège. Et à partir de là, des discussions avec la hiérarchie s'est mis en place pour valider l'intérêt que pourrait avoir ce projet sur un plus long terme et sur un plus large éventail d'enfants. À partir de là, donc Karen Toutain a validé ses études en art-thérapie, c'est-à-dire qu'elle a eu son diplôme d'art-thérapeute. Elle a souhaité poursuivre dans une étude scientifique, donc pour se proposer à l'obtention d'un DU avec la faculté de médecine de Tours. À partir de là, il a fallu qu'elle mette en place un projet scientifique avec une cohorte d'enfants qui bénéficient d'art-thérapie et une cohorte d'enfants qui n'en bénéficient pas. Et pour que cet aspect-là puisse être vraiment scientifique, il y a la partie éducation nationale qui est validée par la direction, régionale, etc., et par une équipe pluridisciplinaire au sein du collège. Et à l'extérieur, il y a des personnes qui sont d'abord directrices de DU. Et donc moi, je suis le directeur de DU avec Sylvie Atucci. Nous sommes 2 co-directeurs du DU de Karen. Et en même temps, Karen a voulu confirmer encore plus cette partie scientifique en mettant en place une supervision du projet, c'est-à-dire une fois par mois, une co-vision avec tous les professionnels qui encadrent ce projet, et donc Karen qui est la chef de projet, et des discussions autour des enfants, des prises en charge, des modalités de prise en charge et des pistes de développement du projet. C'est comme ça que Karen m'a demandé si j'étais d'accord pour être le superviseur de ce projet, sachant que j'étais déjà impliqué puisque je suis un des co-directeurs de son DU.
D'accord. Alors justement, depuis le lancement du projet, quel regard vous portez sur son évolution, ce projet?
Au départ, je pensais qu'il fallait avoir une sacrée énergie pour mettre en place un projet dans une telle administration qu'est l'éducation nationale, parce que c'est assez énorme, c'est national, c'est très hiérarchique et il y a beaucoup de projets qui sont mis en place ou en tout cas proposés et qui finissent par ne pas aboutir. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même une sacrée énergie pour le faire, et ça ça concerne Karen qui a une sacrée énergie pour porter ça. À partir de là, l'évolution du projet, c'est qu'il y a eu déjà une première étape avec son mémoire qu'elle a présenté pour son diplôme d'art-thérapie, et où on a pu voir, en lisant le mémoire, puisque ça a intéressé évidemment toute l'école, ce type de projet, et tous les professionnels aussi, en lisant le résultat déjà d'une première étape qu'elle avait mis en place, on a pu voir les bénéfices de l'art-thérapie, alors au service des enfants qui sont au collège. Alors des bénéfices qui sont des frais directs, c'est-à-dire qu'en fait, avec une prise en charge en art-thérapie, en accompagnement en art-thérapie plutôt, les enfants, on trouve un lieu de ressources qui n'est pas un lieu éducatif, qui est un lieu un peu différent, mais qui n'est pas non plus un lieu de soins, puisqu'on est quand même à l'école, et que du coup, c'est pas un lieu de soins, l'école. Mais c'est dans un entre-deux, et qui était suffisamment ressources pour que les enfants se recalent dans leur mécanisme et retrouvent une place, en tout cas, au collège où ils étaient. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est des enfants qui sont en grande difficulté au collège, soit relationnel, soit aussi au niveau des apprentissages. En fait, c'est souvent en lien. Hein. Et de pouvoir faire une expertise, entre guillemets, plus fine. Non pas que les expertises des instituts ne soient pas fines, hein, du tout. Une expertise complémentaire pour savoir comment accompagner ou accompagner l'enfant au mieux, c'est-à-dire réévaluer l'accompagnement de l'enfant auprès de tous les professeurs, soit de discuter d'une réorientation de l'enfant pour son confort, bien sûr. C'est-à-dire pas dans l'idée de « il nous ennuie, on va le virer », c'est pas ça du tout, c'est dans l'idée de « qu'est-ce qui serait le mieux pour son épanouissement ?» Et là, eh bien, elle a donné... sur ce premier exercice qui est le mémoire, elle nous a donné des pistes, en tout cas, de réflexion en disant c'est vraiment pertinent et il est possible que ça puisse aider les enfants, soit en direct, soit même en seconde instance, c'est-à-dire dans une réorientation qui serait bien plus confortable pour leur épanouissement. C'est de là où, depuis le début là, de la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape du DU, c'est-à-dire de la démarche scientifique, on constate que c'était pas une idée saugrenue et que c'était pas un one shot, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pendant l'élaboration du mémoire que ça s'est passé, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut être pérenne, durable et très utile à la fois au groupe enseignant et à la fois au groupe enfant.
Pourquoi êtes-vous devenu art-thérapeute?
Alors moi j'ai un parcours d'art-thérapeute un peu étonnant. Moi je pensais pas être adapté à ce métier. Et en fait c'est la vie qui m'a un peu poussé là-dedans. D'abord j'étais pas très j'étais loin du soin parce que j'ai pas de maladie particulière dans ma famille. Il y a pas de maladie particulière, etc. Et en fait j'ai eu un premier enfant et qui est né avec un handicap. Donc ça m'a un peu mis dans le soin de force, on va dire. Et puis de là, j'ai une amie psychologue qui m'a dit que je devais peut-être venir l'aider pour remplacer une personne avec laquelle elle travaillait. Et je lui ai dit que je pensais que j'étais pas tout à fait adapté pour ça. Elle m'a dit « tu viens voir ». Et j'ai dit « moi, je veux bien faire un essai d'un mois ». Et en fait, ça fait 20 ans que ça dure, c'est-à-dire que je ne suis jamais sorti de cet essai d'un mois. J'ai repris mes études en cours de route, j'ai validé mon diplôme et je me suis rendu compte qu'effectivement, ouais, j'avais plein de choses à faire dans ce métier et plein de choses à vivre avec ce métier, ce que je fais depuis 20 ans et j'adore ce métier, franchement. Si jamais dans un métier comme celui-ci, quelle que soit la technique thérapeutique hein, qu'on a, mais on n'arrive pas ni art-thérapeute, ni psychologue, ni psychothérapeute pour rien. Il y a toujours une raison, un motif, et voilà. Alors après, c'est pas un métier qui permet et qui est là pour se soigner. Hein. Moi, j'ai fait mes démarches de soins à l'extérieur de mon métier et avant de reprendre mes études. Mais on a forcément dans un parcours de vie quelque chose qui nous interpelle plus que ce que ça devrait peut-être, mais en tout cas qui nous interpelle et qui nous permet de nous intéresser à ça. Depuis, je m'intéresse à l'être humain avec sa complexité et sa diversité, mais c'est formidable.
Merci Philippe Sardou d'avoir répondu à toutes ces questions et bonne fin de journée.
Je vous en prie avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
Thank you.
Voilà, cette fois-ci, nous arrivons au collège de Trénoux et nous allons écouter Karen Toutain. C'est cette personne qui, au sein du collège de la Forêt à Trénoux, exerce donc l'art-thérapie. Et vous allez entendre, c'est une personne passionnée qui mène ce projet de façon vraiment, vraiment intéressante. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Karen Toutain.
Bonjour,
Karen Toutain, vous enseignez, vous pratiquez l'art-thérapie au Collège de la Forêt à Trénoux. Avant de rentrer dans les détails de cette pratique de l'art-thérapie à Trénoux, je voudrais savoir pourquoi et comment vous êtes intéressée à l'art-thérapie.
J'ai débuté ma carrière dans un lycée professionnel sur une zone très sensible en région parisienne. Et la découverte de ce public m'a amenée à réfléchir à la pédagogie qu'il fallait mettre en place pour accueillir des enfants en souffrance et mettre des projets en place qui servent les apprentissages. De fil en aiguille, les programmes de 2008 ont amené la possibilité de proposer des activités pour des publics ciblés autour d'activités artistiques et culturelles. Et j'ai eu l'opportunité de mettre en place un certain nombre de projets dans le premier degré et non plus dans le second degré d'où j'étais originaire, donc c'est-à-dire en lien avec les écoles maternelles et primaires pour répondre à cette directive gouvernementale des arts dès l'école maternelle en lien avec les médiations artistiques. Et là, j'ai découvert que même dans le premier degré et dès la petite enfance, il y avait de nombreux élèves en souffrance et que la gestion de classe, lorsqu'il y avait l'accueil de personnes handicapées en attente de dossiers MDPH, des situations de famille ou sociales délétères à l'attention lors des apprentissages, nécessitait une prise en compte spécifique des besoins des élèves. Et j'ai proposé au rectorat la mise en place de médiations artistiques auprès de ces enfants ciblés. Ce projet a été accepté et pour avoir une validité dans le temps, je me suis intéressée à ce qui pouvait être certifiant ou diplômant et assurer donc une pérennité de cette action dans le temps, notamment à travers la pratique d'ateliers dits kangourous qui portent sur l'attention des enfants intellectuellement précoces. Il y a une dizaine d'années, on était au cœur de cette réflexion à l'éducation nationale. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à franchir les portes de la FRATAPEM, qui est le centre d'enseignement basé sur Tours, qui propose des formations certifiantes en art-thérapie et qui a complété ma formation d'enseignante.
D'accord, d'accord. Bien, alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec des questions qui méritent d'avoir une réponse. Par exemple, est-ce qu'un cadre éducatif, c'est le cadre du soin ou comment justifier de l'intégration d'un tel dispositif en milieu scolaire ou ordinaire? Et qu'est-ce qui le légitime, en fait?
Alors, effectivement, le cadre éducatif n'est pas le cadre usuel du soin et c'est ce qui peut présenter des barrières ou des difficultés de mise en œuvre de l'accueil de pratiques art-thérapeutiques au sein de l'école. Ce qui permet d'envisager un accompagnement via cet outil et ce médium, ces différents médiums, hein, puisque dans l'art-thérapie, on utilise en fait différentes dominantes artistiques, la photographie, les arts plastiques, le théâtre, l'expression corporelle, l'écriture, le chant, enfin voilà, c'est une palette relativement large et qui répond par ses spécificités à différents besoins et qui peut atteindre différents mécanismes humains. Donc pour le légitimer, eh bien, le Collège de la Forêt de Trénoux s'est appuyé sur les circulaires qui paraissent au BO, hein, bulletin officiel édité par le ministère, avec des notes plus précises éditées par les rectorats. Et on a appuyé notre démarche sur la prévention dans un premier temps et sur la prévention des risques psychosociaux et la prévention de la persévérance scolaire pour éviter le décrochage. Donc on a deux articles de référence et deux circulaires qui sont autour de l'inclusion scolaire et le handicap pour favoriser la persévérance et l'accrochage scolaire, et la prévention des risques psychosociaux pour éviter le décrochage et le non-sentiment d'appartenance au sein d'un établissement scolaire.
D'accord, on se retrouve dans quelques instants avec Karine Toutain. Karine Toutain, je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet avec, par exemple, des questions du genre comment est intégrée l'art-thérapie à l'emploi du temps des élèves ? Parce que je pense que c'est des questions que les parents qui nous écoutent vont peut-être se poser.
Tout à fait. Alors, ça a été l'objet d'une grande réflexion. Effectivement, l'art-thérapie dans un dispositif scolaire, c'était aussi se poser la question de savoir si on impacte ou non l'emploi du temps scolaire, mais dans l'établissement scolaire. Le choix après nous a été de proposer l'art-thérapie au sein de l'emploi du temps scolaire. Déjà, l'établissement est en zone périurbaine sans forcément des modalités de transport facilitées, et donc les élèves en partie sont astreints aux horaires des bus scolaires. De ce fait-là, on a proposé d'intégrer l'art-thérapie à l'emploi du temps de l'élève, en priorité sur des créneaux libérés de l'emploi du temps, quand cela est possible. Et quand cela n'est pas possible ou que cela ne répond pas forcément aux objectifs visés pour un élève en particulier, on choisira un créneau horaire de l'emploi du temps où l'élève aura soit à charge, s'il le peut, de rattraper l'enseignement qui n'aura pu être honoré. Pour cela, nous avons des éducateurs qui sont à disposition et des créneaux qui peuvent être alloués aux élèves en plus de devoirs faits, où l'élève est suffisamment autonome pour rattraper l'enseignement dont il n'a pas pu disposer sur le temps où il vient à l'atelier. Mais pour ce faire, il faut savoir aussi qu'à un moment donné, l'impact de l'emploi du temps devient quasi inéluctable parce que le projet est découpé en trois phases. Une phase d'intégration en relation duelle avec l'art-thérapeute où l'enfant va pouvoir gagner en confiance et l'art-thérapeute va pouvoir créer une alliance thérapeutique dans une alliance relationnelle de qualité avant d'intégrer l'enfant dans un dispositif un peu plus groupal, n'excédant pas 5 participants, où le projet sera peut-être individuel, mais dans un cadre groupal. Et puis, en dernier lieu, une troisième phase où l'enfant est dans un dispositif groupal, donc ce qui génère des gestions d'emploi du temps plus complexes, et là où l'emploi du temps d'un ou plusieurs élèves du groupe sur un même créneau est forcément en lien avec une heure manquée de l'emploi du temps. Et cette dernière phase permet de faire des projets en lien avec les programmes de l'éducation nationale, avec les autres enseignants, et être dans une transdisciplinarité, une pluridisciplinarité aussi.
D'accord. Alors justement, vous avez choisi au Collège de la Forêt à Trénoux, dans l'emploi du temps, donc la pratique de l'art-thérapie, le lundi et le vendredi, pourquoi ?
C'est bonne question. Le vendredi a été le premier jour que nous avons retenu parce que, en général, au bout d'une semaine intense au collège, dans les établissements scolaires en général, mais c'est vrai qu'au collège ou en lycée professionnel, les fins de semaine sont plus souvent en tension parce qu'il y a le cumul de la fatigue. Donc, on a pris cette décision de le positionner en fin de semaine pour cette première raison-là et parce que effectivement, les emplois du temps sont plus allégés le vendredi avec des sorties plus facilité en amont de 16h ou 17h, on a 50% des effectifs qui vont avoir un emploi du temps qui se termine aux alentours de midi sur le vendredi. Donc ça limitait l'impact des emplois du temps sur l'après-midi et donc la possibilité des élèves de venir à l'atelier. Et le lundi, eh bien, le fait est que depuis 4 ans maintenant que ce dispositif est implanté, outre la coordination des membres de la cellule de Vel qui a lieu par quinzaine tous les lundis matins, eh bien, les nouveaux arrivants, les élèves qui présentaient des souffrances ou dont le décrochage scolaire était perceptible, ont fait l'objet de premières rencontres sur le créneau du lundi après-midi. Et puis, de fil en aiguille, les plages horaires étant devenues complètes, il a fallu élargir et proposer de nouveaux créneaux pour accueillir ces enfants en besoin. Donc, le lundi a été ouvert également en complément du vendredi et permet de faire le lien entre le début et la fin de semaine.
Karine Toutain, dites-moi un petit peu comment ça se passe. Alors, une séance d'art-thérapie au Collège de la Forêt à Trénou, est-ce qu'il y a, dans l'emploi du temps qui est réservé à l'art-thérapie, est-ce qu'il y a des progressions? Est-ce qu'à chaque fois, on commence par quelque chose, après on fait autre chose? Comment ça se passe?
Alors, effectivement, il y a une progression. L'art-thérapeute a des outils et une méthodologie qui est en lien avec l'enseignement dont j'ai bénéficié via la Fratapem et le centre de formation de Tours. Donc ce protocole nécessite d'avoir des objectifs, de mettre en place en fonction de ces objectifs les outils adaptés, dont le choix d'une discipline telle que l'encre plutôt que la flûte, par exemple, ou les arts plastiques plutôt que la photographie, en fonction des besoins de l'élève et de ce vers quoi nous devons tendre pour améliorer la situation, puisque l'objectif, c'est de prendre soin de l'élève et, en prenant soin de lui, d'avoir un impact sur ses apprentissages ou sa motivation.
D'accord. Alors, pour vous aider, je crois que vous avez aussi des stagiaires, c'est ça ?
Oui, on a des stagiaires. Pour revenir sur la question d'avant, au-delà des outils de l'art thérapeute, nous évaluons à chaque séance avec les élèves l'impact de la séance sur la perception, le ressenti de l'élève face à cette séance. Donc on a ce que nous appelons dans notre jargon d'art thérapeute issu de la Fratapem, le cube harmonique qui évalue les 3 B, le bon, le bien et le beau. Et les élèves ont à répondre à des questions à chaque fin de séance pour évaluer eh bien, le sentiment d'acquisition d'un savoir-faire, la qualité de la production, la qualité de leur investissement dans l'intérêt du sujet et dans le ressenti de ce qui a été bon et bien réalisé avec l'acquisition d'un savoir-faire. Et ça, c'est ce qui permet de passer de la valeur subjective du beau et de l'esthétique à une valeur objective quantifiée et répertoriée qui, après, fait l'objet d'une étude et d'un retour chiffré permettant de faire de jolis graphiques à transmettre à notre institution pour valider l'efficience d'un tel projet. Concernant la deuxième question que vous venez de me poser sur l'accueil des stagiaires, effectivement, nous avons essayé de mettre en place avec la CARDI, qui est partenaire depuis le début et qui a permis l'expérimentation l'implémentation de ce projet. La CARDI est une cellule académique, recherche, développement, expérimentation et innovation. Dans chaque rectorat, elle existe. Et des appels à projets permettent de proposer des idées expérimentales, innovantes, en lien avec la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que le projet a pu avoir lieu. Et dans la proposition de l'art-thérapie incluse à l'emploi du temps de l'élève, la CARDI a essayé de mettre en place l'essaimage de ce projet sur d'autres établissements pilotes en proposant une formation pour les enseignants en priorité qui a été à l'étude il y a 2 ans maintenant et est encore en cours de réflexion au rectorat. Et qui a permis d'accueillir en premier lieu des stagiaires issus de la FRATAPEM en cours de formation, de certification ou de la faculté de médecine qui prépare un DU, diplôme universitaire en art-thérapie moderne, pour valider donc leurs pratiques dans des établissements scolaires répertoriés et référencés. Et le Collège de Trénoux a accueilli cette année sa première stagiaire dans ce cadre-là de recherche d'essaimage du projet pour l'étendre et pouvoir favoriser l'intégration de cet outil comme outil ressource complémentaire à l'existant dans certains établissements scolaires.
Oui, alors justement, peut-être que des personnes peuvent se poser la question de savoir quel cadre administratif est garant du dispositif. Et justement, on vient de parler de ce protocole en place. Quel est le protocole qui a été mis en place au collège, en fait ?
Alors, déjà, il faut savoir que ça a fait l'étude... ça a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des partenaires du rectorat et chef de cabinet, infirmière déléguée à Madame la rectrice, médecin conseiller technique de la rectrice. Donc différents acteurs ont pu proposer et être garants d'un cadre sécuritaire optimisant la viabilité et la validité de ce projet, notamment en éditant et en proposant une charte déontologique et éthique qui pose le cadre, les règles de l'accueil de cette pratique dans un premier temps et ensuite de l'accueil de stagiaires au sein de l'éducation nationale.
D'accord, d'accord. Alors, une question. Allez, on va faire une petite pause musicale et ensuite on va aborder un autre chapitre que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, les résultats en fait. Alors justement, Karine Toutain, c'est une bonne question à se poser, que les parents ou les auditeurs de Radio Web Passion qui découvrent l'art-thérapie peuvent se dire oui, mais alors quels sont les résultats ? Et peut-être, avant de parler des résultats, d'essayer de comprendre le mécanisme, comment ça se passe, comment les élèves, les collégiens donc vont venir en art-thérapie et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année, pendant un trimestre, par exemple, je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit orienté voilà. En art-thérapie ? Alors déjà, il y a plusieurs acteurs au sein de l'établissement qui peuvent orienter les élèves en art-thérapie. Le professeur principal qui a... une bonne connaissance de l'élève dans la restitution de ce qui est observé et vécu en classe par les collègues et qui se fait donc le coordonnateur. Ensuite, il y a le CPE, après nous, c'est Madame Dupuis qui œuvre avec toute son équipe vie scolaire à recueillir, accueillir, écouter les élèves qui peuvent être face à une difficulté qui est d'ordre varié. Ça peut être une difficulté d'apprentissage suite à un handicap, avec parfois la difficulté à mettre en place un dispositif d'accompagnement adapté, un manque de place dans les structures. La loi pour l'inclusion scolaire oriente les acteurs de la scolarité à accueillir les élèves en situation de handicap. Et parfois, ces personnes en situation de handicap ont besoin d'un temps alterné entre une structure spécialisée et des temps spécifiques pour répondre à la difficulté ciblée, et des temps d'inclusion dans un dispositif ordinaire. Et nous avons un certain nombre d'élèves qui, par manque de place dans les structures, ULIS, ITEP, ont un dossier en attente et se retrouvent à plein temps dans l'établissement, alors qu'ils devraient au moins avoir un temps alterné. Dans ce cas de figure, eh bien, souvent l'élève est en souffrance et les familles désarmées. Et c'est dans ce cadre-là qu'une partie du public que j'accueille vient à l'atelier, parce qu'il est préconisé par ses membres de la communauté éducative, que ce soit le chef d'établissement ou son adjointe, dans la connaissance du dossier, de la démarche qui est engagée mais qui n'a pas encore de réponse institutionnelle, dans l'accueil d'une souffrance au bureau de la vie scolaire ou diagnostiquée, enfin entendue par le professeur principal en lien avec les familles. La psychologue scolaire et l'infirmière scolaire sont également des relais. La psychologue scolaire a la notion, a une double casquette, puisqu'elle a en charge également l'orientation scolaire et notamment dès la quatrième, la question de l'orientation, du choix du bon secteur en fonction des capacités d'élèves font que parfois, en complément d'autres outils qui sont mis en œuvre dans l'établissement, les élèves vont être orientés à l'atelier pour favoriser la prise de confiance, l'affirmation de soi, la préparation d'un projet qui va mettre en valeur l'élève au-delà de la stigmatisation ou d'un vécu personnel qui peut avoir impacté sa motivation ou sa persévérance.
Karen Toutain, si je comprends bien, il y a une première typologie de collégiens dont vous venez de parler, puis il y a une autre typologie aussi. Ce sont les enfants qui d'un seul coup ont des résultats scolaires en chute libre, ou d'un seul coup ont une attitude en classe qui n'était pas celle qu'on voyait auparavant, c'est ça ?
Tout à fait. Et là, nous sommes sur la deuxième cohorte d'enfants qui peut être amené à être orienté vers l'atelier d'art-thérapie. Ce sont les enfants qui vont exprimer leur souffrance, leur désarroi ou leur difficulté par des comportements inadaptés au cadre scolaire, inadaptés envers leur père ou envers l'adulte, et progressivement avoir potentiellement des conduites à risque envers eux-mêmes ou envers autrui, et décrocher, en tout cas à montrer des indicateurs significatifs de décrochage scolaire. Les dossiers des élèves sont alors présentés lors de commissions, de cellules de veille qui ont lieu, donc, comme je vous en ai parlé précédemment, tous les 15 jours le lundi matin, et en équipe avec la CPE, la psychologue de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, le principal adjoint, nous avons un ensemble de dossiers que nous étudions pour voir qui, en fonction de la mission qui nous est attribuée, est le plus à même de recevoir l'élève et ou la famille pour faire avancer la situation favorablement et poser le cadre d'un accompagnement éventuel à l'extérieur, parce que l'art thérapie à l'intérieur du collège ne remet pas en cause le besoin, quand c'est nécessaire, d'un accompagnement par d'autres professionnels de santé, que ce soit psychologue, accompagnement d'un psychiatre ou d'un orthophoniste, d'un psychomotricien, ça ne remet absolument pas ça en cause. Nous sommes partenaires et nous essayons de faire le lien d'ailleurs avec les différentes institutions quand cela est possible et quand cela se révèle nécessaire pour l'avancement de la scolarité de l'élève en lien avec les familles.
D'accord. Alors cette fois-ci, on y est. On va parler des résultats.
Pouvoir évaluer, effectivement, comme nous sommes dans un dispositif expérimental, il y a des outils d'évaluation propres à la pratique de l'art-thérapie, dont nous avons parlé un petit peu. Il y a des fiches d'observation, des items spécifiques. Évidemment, c'est dans le cadre d'une étude scientifique, donc sur le thème de la persévérance et l'inclusion scolaire. Donc, une grande réflexion a été menée sur les items d'observation, référencement de ces items pour pouvoir après déployer une étude chiffrée. Et dans les premiers résultats, puisque c'est la quatrième année que ce dispositif est mis en œuvre, nous avons une baisse des signalements qui est croissante. Alors il peut y avoir quelques biais, notamment effectivement on peut remettre en cause certains résultats quand il y a un changement d'équipe ou de personnel dans l'ensemble du fonctionnement, ce qui a été le cas sur la première année avec un changement de chef d'établissement et donc peut-être un cadre qui est reposé différemment aussi par rapport à notre hiérarchie. Mis à part cet élément-là, il y a malgré tout depuis 3 ans où il n'y a pas eu de changement de cet ordre-là, une baisse des signalements, une diminution des exclusions temporaires, une diminution des conseils de discipline. Ça, c'est sur la partie scolaire et administrative. Du point de vue de l'élève, on a une amélioration du sentiment d'appartenance. Un élève qui se sent isolé et sur lequel nous avons une échelle du sentiment d'appartenance qui est posée avec l'élève et la famille en amont de l'accueil au dispositif d'art-thérapie et en aval de la prise en charge, nous avons un sentiment d'appartenance qui a évolué favorablement avec le sentiment d'appartenir à un autre groupe que celui de la classe seule, notamment celui de l'atelier des artistes. On a une évolution des composantes de l'estime de soi, avec une affirmation de soi qui va être régulée quand elle était en excès ou en défaut. Une évolution de la considération de soi autour d'un amour de soi et ou des autres qui s'adapte différemment et qui permet d'être adapté au cadre et à l'environnement. Et une amélioration de la confiance en soi dans la valorisation de production. Il y a une diminution de la stigmatisation aussi au sein des équipes, un sentiment donc de fierté. Et surtout, ce qui ressort, c'est qu'il y a un sentiment de devenir acteur de sa scolarité autour d'un projet qui fait sens. Donc donner du sens par l'intermédiaire d'un atelier d'art-thérapie en complément des apprentissages et en lien avec les équipes en poste au collège, s'il n'y a pas ce lien, cela perd aussi de sa qualité et de son sens et de son intérêt. Il faut vraiment que ce soit un outil parmi d'autres et qui vienne en complément et qui vienne se raccrocher, se ramifier au cadre institutionnel qui est en premier lieu éducatif.
D'accord. Alors après cette nouvelle pause, on parlera un petit peu de la participation et de l'impact sur les familles de l'art-thérapie. Parce que pour l'instant, on est en milieu scolaire, hein, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, les impacts avec l'extérieur dans quelques secondes. Karine Toutain, une fois que vous avez détecté ces élèves, comment ça se passe? Vous demandez aux familles de s'ils sont d'accord pour que l'élève suive des cours d'art thérapie? Comment ça se passe?
Alors déjà, c'est pas moi qui détecte les élèves, c'est le rôle et la mission de d'autres acteurs, comme je vous en ai parlé, donc la CPE, l'infirmière, la psychologue scolaire en lien avec le professeur principal, le chef d'établissement ou la principale adjointe a aussi ce rôle et cette mission. Et c'est par rapport à des indicateurs, hein, enseignants, élèves, qui permettent d'orienter vers l'atelier. Pour répondre après à votre question sur l'accueil des enfants et l'accord des familles, il y a un protocole qui est mis en place. Donc une fois cette réunion de cellules de feuille mise en place avec la description de la problématique de l'élève, si l'on considère que il y a une appétence artistique et que cela peut correspondre favorablement pour l'élève, alors il va être accueilli à l'atelier sur une séance de première rencontre où je vais valider déjà l'appétence artistique. Est-ce que un médium artistique est bien indiqué pour accompagner l'enfant? Parce que si l'art thérapie peut être indiquée dans certains cadres, puisque c'est sous autorité soit médicale, soit du chef de structure, hein, nous ne travaillons jamais seuls, c'est en partenariat avec la hiérarchie. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a appétence, on peut prendre l'élève et faire une demande aux familles, mais ça peut aussi être contre-indiqué. Il y a eu des cas où, lors d'une première rencontre, il semblait être défavorable d'accueillir l'enfant parce que cela aurait pu être délétère et en tout cas contre-productif dans la situation donnée et bien précise d'un élève en particulier auquel je pense. Les familles sont alors contactées par téléphone. Un document leur est donné pour présenter le dispositif. Un échange a lieu, comme je vous disais, au téléphone. Et si le retour signé des parents est retourné au collège, à ce moment-là, un emploi du temps aménagé va pouvoir être proposé à l'élève avec un créneau qui va être alloué à l'accueil de l'enfant pour venir pratiquer une activité artistique et un projet défini sur des objectifs ciblés à l'atelier.
Ce que me semble que j'ai vu quelque part, qu'en fait, il y a au moins plus de 50% des familles qui ont accepté que leur enfant participe à des séances d'art-thérapie. Hein.
Des chiffres, qu'il y a une petite nuance à faire. L'intégralité, alors actuellement, sur l'ensemble des élèves qui ont été préconisés à venir participer à l'atelier d'art-thérapie, seules deux familles n'ont pas répondu favorablement à cette proposition d'accompagnement. Le chiffre de 50% dont vous parlez me semble correspondre à la participation des familles à l'atelier proposé en janvier dernier au sein du collège sur la transmission d'un savoir acquis au sein de l'atelier par les élèves à leurs familles autour d'un atelier parent-enfant. Et dans ce cadre-là, ou dans le cadre de sorties proposées où les parents peuvent venir accompagner leurs enfants, découvrir un site culturel, bon, dans le contexte actuel, évidemment, nous n'avons pas pu effectuer de sortie, mais dans le cadre des ateliers parents-enfants qui sont menés au collège, eh bien, 50% des familles répondent favorablement et se rendent disponibles alors que c'est sur le temps scolaire et donc en journée et ne facilite pas toujours la venue des parents qui peuvent être en situation de travail et d'obligation professionnelle.
En parlant, en allant un peu plus précisément dans le sujet, l'impact sur les familles, c'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, les relations entre parents-enfants s'améliorent?
Alors, c'est un item qui ne peut être évalué qu'en fin de prise en charge, quand il a été évalué en amont et en aval. Hein, pour pouvoir noter une évolution, il faut donc un état de départ et un état post-prise en charge. Ça ne correspond pas actuellement à une démarche qui a été entreprise dans le cadre du dispositif pour l'inclusion et la persévérance scolaire, puisque nos items d'observation étaient essentiellement dans la progression scolaire de l'enfant. Pour autant, les retours que nous avons des familles montrent qu'il y a eu quand même un impact favorable, pas forcément dans la relation parent-enfant, mais dans la relation d'accueil, d'écoute et de partage dans la motivation scolaire. Et une partie des questions qui sont posées aux élèves, pour l'une d'entre elles en tout cas, c'est très précis. C'est-à-dire qu'on va poser la question suivante. Quelle est ta motivation à venir au collège aujourd'hui? Quelle est ta motivation à venir pratiquer une pratique artistique au sein de l'atelier? Déjà, au niveau de cette jauge-là, il y a un facteur de 1 point qui est notable du début jusqu'à la fin de la prise en charge. C'est-à-dire que la motivation de l'élève à venir au collège se situe sur 1 point en dessous de la motivation à venir faire l'activité artistique. Et il y a une deuxième question qui est posée à l'enfant pour pouvoir évaluer la persévérance et donc le goût à l'effort, en fonction d'une difficulté perçue et en fonction de l'effort fourni par l'élève, du moins dans sa sensation d'avoir fourni un effort, il y a aussi un décalage d'un point. C'est-à-dire qu'un élève va pouvoir noter un effort avec une difficulté sur une échelle de 1 à 5 sur 3, donc une difficulté moyenne, et va nous verbaliser que l'effort que cela a été a nécessité pour lui est de 4. Donc il est obligé, pour répondre à une stimulation de difficulté moyenne, de mettre en place des efforts qui sont au-dessus de ce point de référence. Et ça montre quand même que l'atelier va les aider à augmenter progressivement leur capacité d'effort tout au long de l'année dans la persévérance et dans l'accompagnement qui est effectivement privilégié puisque nous sommes dans un cadre de relation duelle, comme je vous l'ai dit, pour la phase 1 protocole et relation groupale ne dépassant pas 5 ou 7 sur la phase 2 ou la phase 3 du protocole en lien avec les programmes pour la phase 3. Donc il y a quand même des items d'observation qui sont très révélateurs pour le lien avec les familles dans le cadre familial. Nous n'avons pas suffisamment d'indicateurs ni de retour autre que la verbalisation des familles qui vont nous remercier déjà de l'existence d'un dispositif qui leur permet de constater qu'il y a une respiration offerte à l'enfant quand l'angoisse, la pression, la difficulté à faire des efforts sur le maintien d'un comportement adapté est possible dans la semaine déjà, d'une, et aussi sur le fait que ça apportait du sens et un goût supplémentaire, donc à changer la saveur et la relation à l'école et ou aux autres.
Bon, écoutez, Karen Toutain, voilà, on en sait beaucoup plus sur l'art-thérapie, cette expérimentation au Collège de la Forêt à Trénoux. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de perspective?
Eh bien, en tout cas, l'essence du projet et notre souhait serait de pouvoir déjà utiliser la ressource existante sur le territoire de l'Académie d'Orléans-Tours. C'est-à-dire que sur l'Académie d'Orléans-Tours, sur ce secteur-là, nous avons déjà 9 enseignants certifiés ou diplômés de la faculté de médecine ayant les compétences pour assurer un accompagnement en art-thérapie moderne pour des enfants en situation de handicap ou de souffrance et pour répondre à des besoins éducatifs particuliers. Donc si déjà l'essaimage de ce projet pouvait se faire de manière plus grande en utilisant la ressource existante dont dispose l'éducation nationale, ce serait déjà une première avancée. L'essaimage du projet, comme nous en avons parlé, c'est aussi d'augmenter les établissements pilotes qui reprendraient ce protocole ou un protocole plus adapté en fonction des spécificités territoriales pour accueillir des stagiaires et implanter l'art-thérapie sur différentes zones, offrir donc aux familles et aux élèves cette possibilité comme un outil complémentaire à l'existant. Et évidemment, dans l'idéal et dans un rêve que je nourris, ce serait effectivement un échelonnage à l'échelle nationale pour que ce projet qui maintenant a un très très bon référencement dans les items d'observation, dans la démarche et le protocole mis en place, puisse se pratiquer dans d'autres académies. Et je sais que des collègues œuvrent de ce côté-là pour essayer d'implanter l'art-thérapie également de leur côté dans d'autres académies. Donc ça, c'est un rêve que nous nourrissons pour pouvoir accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers avec des souffrances différenciées, qu'elles soient d'ordre personnel, social, d'apprentissage, d'inclusion, de comportement.
Merci Karine Toutain d'avoir répondu à toutes ces questions. Dernier épisode sur l'art-thérapie, c'est vendredi à partir de 11h, où là nous irons carrément au collège de Trénoux, nous interrogerons des enseignants, l'administration, bien sûr, le principal, la principale adjointe, la CPE, sur cette art-thérapie, comment ça se passe au collège de Trénoux. À vendredi, bonne journée.